Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 6, Daf Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Veshutafim, lomatsu memirim. Lorsque deux personnes sont associées dans un sacrifice, ils n'ont pas le pouvoir d'échanger ce sacrifice avec un autre, au point où le second devient sacrifice en tant qu'échange du premier. Et la Iamart Lokanya Lehu, mais si tu dis que les héritiers n'acquièrent pas le sacrifice, Emure Namilimru, ils devraient avoir aussi le pouvoir d'échanger le sacrifice de manière à ce que le second devienne sacrifice en tant qu'échange du premier. Agma répond, Shani Atam, là-bas c'est différent. C'est-à-dire concernant les lois de l'échange des sacrifices. Damakra, parce que le Pasuk dit dans le paragraphe concernant les échanges de sacrifices dans Vaikra Kavzaim, Vim Hamer Yamir, etc. Si échangé, il échangera. Cette répétition est superflue. Les rabot et hayoresh, cela vient inclure l'héritier d'un sacrifice qui lui aussi a le pouvoir d'échanger un sacrifice de manière à ce que le second devienne sacrifice en tant qu'échange du premier. Mais puisque tout ce paragraphe s'exprime au singulier, nous apprenons de là Echad Memir ve'en Shnaim Memirim. Il n'y a qu'un seul qui a le pouvoir d'échanger le sacrifice. Autrement dit, ce n'est que lorsqu'une seule personne pourrait avoir la possibilité d'effectuer cet échange qu'elle pourra le faire au point où le second animal devient sacrifice en tant qu'échange du premier, tandis que lorsque ce sont deux personnes qui pourraient avoir la possibilité d'effectuer cet échange, aucune de ces deux personnes n'aura ce pouvoir. Finalement, nous apprenons clairement de ce pasouk qu'en aucun cas, deux personnes auraient le pouvoir d'effectuer la tmoura. Nous pouvons donc comprendre cela, même si en fait les héritiers n'héritent pas le sacrifice. Matkifla, Rabbi Yaakov Minahar Pekoud. Rabbi Yaakov, de l'endroit appelé Nahar Pekoud, a objecté là-dessus. Et la Meata, si c'est ainsi que nous apprenons du Pasouk, que deux personnes n'ont pas ce pouvoir. Gabé Maaser, à propos de la seconde dîme, qui est prélevée après la première qui, elle, est donnée au Lévi. Cette seconde dîme doit être consommée dans la ville de Yerushalayim, et s'il est impossible d'emmener les fruits à Yerushalayim, il est possible de racheter cette dîme, et l'argent qui a servi au rachat sera dépensé dans la ville de Yerushalayim pour de la nourriture. La halakha est, comme le dit le pasouk, que lorsque c'est le propriétaire qui rachète la dîme, il doit ajouter un cinquième de la contre-valeur des produits qu'il rachète. Alors à propos de cette seconde dîme, dirtiv le pasouk dit dans Vaikra Kavzaim, Vim Gaol Yigal, et s'il rachetait, il rachètera, etc. Il devra rajouter donc un cinquième, comme nous l'avons dit. Cette répétition qui est superflue nous enseigne la chose suivante. Les rabot et taïoresh, cela vient inclure l'héritier, qui lui aussi, lorsqu'il rachète la dîme qu'il a héritée, il devra rajouter un cinquième. En la question se pose, Hachinami, est-ce qu'ici aussi nous apprendrons de cette répétition Echad Goel Ven Shnaim Goalim, que c'est uniquement lorsqu'il y a un seul héritier que celui-ci devra ajouter un cinquième lorsqu'il rachète la seconde dîme qu'il a héritée de son père. Mais lorsqu'il y a deux héritiers, ils ne devront pas racheter de cette manière, c'est-à-dire ils n'auront pas à ajouter le cinquième. L'agma répond, Shani Maaser, à propos de la seconde dîme, c'est différent, de Gabé Avuhon Nami Iteh Beshutafut. Même auprès de leur père, donc même sans héritage, cette règle selon laquelle le propriétaire doit ajouter un cinquième lorsqu'il rachète la seconde dîme, existait aussi même lorsqu'il s'agissait d'associer. Et cela parce que le paragraphe concernant le rachat de la seconde dîme ne s'exprime pas particulièrement au singulier. Il n'y a donc pas lieu de faire la différence entre si une seule personne possède cette seconde dîme ou bien si cette seconde dîme appartient à des associés. Dans tous les cas, lorsque le ou les propriétaires voudront racheter la seconde dîme, ils devront rajouter un cinquième. Il n'y a donc pas de raison de dire que lorsqu'il y a deux héritiers qui ont hérité la seconde dîme, qu'il n'est pas d'obligation de rajouter un cinquième. Tandis que, concernant l'échange des sacrifices, puisque tout le paragraphe s'exprime uniquement au singulier, nous apprenons que ce n'est que lorsqu'il y a une seule personne qui pourrait avoir la possibilité d'effectuer cet échange qu'il a ce pouvoir, tandis que lorsqu'il y a deux personnes qui pourraient avoir ce pouvoir, par exemple dans le cas de deux héritiers, ils n'auront pas le pouvoir d'effectuer une tmoura. En tout cas, puisque nous l'apprenons d'un pasouk, on ne pourra pas prouver du fait que lorsqu'il y a deux héritiers qui n'ont pas le pouvoir d'effectuer la tmoura, que les héritiers ont acquis le sacrifice. Amarle, Rav Assi, le Rav Ashi. Rav Assi a posé la question suivante à Rav Ashi, Umina. On peut quand même le déduire de l'enseignement même de Rabbi Yochanan, parce que Iyamar Bishlama Kanya Lehu, on peut bien comprendre encore si les héritiers ont acquis le sacrifice. Haynu Dechad Mihamemar, nous pouvons bien comprendre pourquoi au moins lorsqu'il y a un seul héritier qu'il a le pouvoir d'effectuer la tmoura. Et là Iyamar Lo Kanya Lehu, mais si tu dis que les héritiers n'acquièrent pas le sacrifice, Hechi Memar, comment se fait-il que même lorsqu'il y a qu'un seul héritier qu'il ait le pouvoir d'effectuer une tmoura? Parce que Veha Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Abahu a dit au nom de Rabbi Yochanan, dans le cas où une personne s'est engagée à offrir un sacrifice et une autre personne a désigné un de ses animaux à lui comme sacrifice du premier, cet animal sera donc offert en tant que sacrifice de cette personne qui a cet engagement d'offrir le sacrifice. Hamakdish Mosif Chomesh. Si l'animal devient infirme, il faut donc le racheter pour acheter un autre animal pour remplacer le sacrifice. La halakha est que lorsque le propriétaire rachète un objet qu'il a rendu hekdesh, il doit ajouter un cinquième de la valeur de cet objet. Dans notre cas, c'est la personne qui a désigné l'animal comme sacrifice qui sera considérée comme propriétaire, et si lui rachète cet animal, il devra rajouter un cinquième, tandis que l'autre personne au profit de laquelle le sacrifice devait être offert ne sera pas considérée comme propriétaire pour cela, et s'il rachète l'animal, il n'aura pas l'obligation d'ajouter un cinquième. Umit kaper oset mura, tandis que c'est la personne pour laquelle le sacrifice est offert qui a le pouvoir d'effectuer une tmura, de manière à ce que le deuxième animal devient aussi sacrifice en tant qu'échange du premier, tandis que la personne qui a désigné l'animal comme sacrifice n'est pas considérée comme étant propriétaire pour cela. Il n'a donc pas le pouvoir d'effectuer une tmura. Behatorem michelo al shel chavero, celui qui prélève des fruits lui appartenant en tant que truma sur les fruits de son prochain, la personne qui a effectué le prélèvement est considérée comme étant propriétaire. Par conséquent, tovat hana'a shelo, c'est à lui que revient le droit de donner cette truma à n'importe quel kohen. Et si un membre de la famille d'un certain kohen veut donner de l'argent au propriétaire de la truma pour qu'il donne la truma au kohen de sa famille, c'est à la personne qui a effectué le prélèvement que revient cet argent. En tout cas, nous voyons de cet enseignement de Rabbi Yochanan que pour effectuer une tmoura, il faut être propriétaire, et ne sera considéré propriétaire que la personne dont les péchés seront expiés par l'offrande de ce sacrifice. Puisque c'est ainsi, si nous voyons que l'héritier a le pouvoir d'effectuer la tmoura, forcément c'est que ce sacrifice compte pour lui et ses péchés seront expiés par l'offrande du sacrifice qu'il a hérité. Finalement, les deux enseignements de Rabbi Yochanan se contredisent. D'une part, nous voyons que les héritiers n'héritent pas le sacrifice, puisque lorsque des héritiers ont hérité une mincha, celle-ci peut être offerte alors que deux personnes ne peuvent pas s'associer pour offrir une mincha. Et d'autre part, nous voyons que les héritiers héritent le sacrifice, puisque nous voyons que lorsqu'il y a un seul héritier qui a hérité un sacrifice, il a le pouvoir d'effectuer la tmoura. Donc ma réponse, mikiv a lomechapra. Lorsqu'un héritier offre un sacrifice, celui-ci n'expie pas ses péchés d'une manière fixe, comme s'il était le véritable propriétaire. C'est pour cela que des héritiers qui ont hérité une mincha, celle-ci pourra être offerte, puisque finalement, on ne considère pas que les héritiers ont réellement hérité le sacrifice. Cependant, mikufia mechapra, l'offrande de ce sacrifice leur obtiendra quand même une expiation légère, ce qui est suffisant pour leur accorder le pouvoir d'effectuer une tmoura. Par conséquent, lorsqu'il y a un seul héritier, il aura le pouvoir d'effectuer la tmoura. Le deuxième animal sera considéré comme sacrifice en tant qu'échange du premier. En tout cas, puisque c'est ainsi que le sacrifice offert par les héritiers ne leur apporte qu'une expiation partielle, nous pouvons répondre à la question de Rav Nachman et de Rav Shechet que nous avons vue précédemment, et nous pouvons comprendre ce qu'a dit Rabbi Lazar en disant que si nous voyons que des sacrifices peuvent être offerts par les héritiers après le décès du propriétaire, on peut comprendre aussi pourquoi un sacrifice qui a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice peut continuer à être offert. En effet, s'il existait un principe selon lequel il est interdit d'offrir un sacrifice pour rien, et c'est pour cela que nous devrions dire qu'un sacrifice qui a été offert au nom d'un autre sacrifice ne peut pas continuer à être offert. Les héritiers ne devraient pas pouvoir offrir un sacrifice, puisqu'en général, un sacrifice est offert pour obtenir le pardon complet. Si c'est uniquement pour obtenir un pardon partiel ou léger, il devrait être interdit de le sacrifier, parce que nous devrions considérer que ce sacrifice est offert pour rien. Donc, puisque nous voyons que le sacrifice peut être offert par les héritiers, on peut comprendre aussi pourquoi un sacrifice qui a été offert au nom d'un autre sacrifice peut continuer à être offert. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf He. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Vav à la 16e ligne du haut de la page. Nous avons vu dans la Mishnah, donc au début de la Masechet, que celui qui offre un sacrifice au nom d'un autre sacrifice ou au nom d'une autre personne, celui-ci sera kasher, mais le propriétaire devra en offrir un autre pour le remplacer. Alors la Gemara se pose une question là-dessus. Ibaya lehu, les Chachamim se sont posés une question. Lorsqu'un sacrifice a été offert au nom d'un autre sacrifice, Kippur Alma Shebaou, est-ce que l'offrande de ce sacrifice a obtenu le pardon pour le propriétaire sur les péchés pour lesquels ce sacrifice a été offert, au moins en ce sens qu'il n'est pas à craindre que des malheurs s'abattent pour lui à cause de ses péchés avant qu'il n'offre le second sacrifice, Lo Kippur, ou bien est-ce que l'offrande de ce premier sacrifice qui lui a été offert au nom d'un autre sacrifice n'a obtenu aucun pardon. Par conséquent, le propriétaire devra donc se dépêcher pour offrir le second sacrifice. L'Agma répond, nous lisons ici selon le Bach, Amar Rav Shisha Bere Deravidi, Mistabra, il est logique de dire de Lo Kippur que l'offrande de ce premier sacrifice n'a pas obtenu le pardon pour le propriétaire. De Is Al Kadatar Kippur, parce que s'il te vient à l'esprit que l'offrande du premier sacrifice a obtenu le pardon pour le propriétaire, Sheni Lama Uba, à quoi sert l'offrande du second sacrifice? Alors la Gemara rétorque, Velamai, alors quoi, Lo Kippur, tu veux dire que l'offrande du premier sacrifice n'a pas obtenu de pardon pour le propriétaire? Si c'est ainsi, Lama Ukarev, pourquoi est-ce qu'on continue à l'offrir au nom du sacrifice alors que de toute façon il n'obtiendra pas le pardon? On devrait donc arrêter son offrande? La Gemara répond, Amar Rav Ashi, Rav Shisha Bere Deravidi, Hachika Kachale. C'était cela la question de Rav Shisha Bere Deravidi, par le moyen de laquelle il a prouvé que l'offrande du premier sacrifice n'a pas obtenu le pardon. Et Amar Bishlama Lo Kippur, on comprend bien encore si tu dis que l'offrande du premier sacrifice n'a pas obtenu de pardon. On peut comprendre quand même pourquoi celui-ci continue à être offert. C'est parce que Shelo Lishmo, Mikoach Lishmo Kaate. Ce premier sacrifice qui a été offert au nom d'un autre sacrifice provient d'un sacrifice qui aurait dû être offert au nom de ce sacrifice. Autrement dit, puisque cet animal a été désigné pour être offert en tant que sacrifice en son nom, on peut concevoir que même s'il a été offert au nom d'un autre sacrifice, il continuera quand même à être offert, puisque cet animal devait de toute façon être offert en tant que sacrifice. Et là, il y a Mard Kippur, mais si tu me dis que l'offrande du premier sacrifice, même s'il a été offert au nom d'un autre sacrifice, a obtenu le pardon pour le propriétaire. Sheni Lama Huba, pourquoi faut-il désigner un autre animal pour offrir un sacrifice pour remplacer le premier, puisque de toute façon, il a obtenu le pardon en ce sens qu'il n'a plus à craindre que des malheurs s'abattent sur lui pour les péchés qu'il a commis. Pourquoi donc doit-il offrir un autre sacrifice qui ne servira à rien? Forcément donc, nous dirons que le premier sacrifice n'a pas obtenu le pardon, et c'est le second qui obtiendra le pardon pour le propriétaire. Nous verrons plus loin d'Av Zayin que l'offrande d'un korbanola obtient le pardon pour une personne qui a transgressé un ou plusieurs commandements positifs. Alors, Ibaya Lehu, les Chachamim se sont posés la question suivante pour un korbanola qui a été offert correctement, donc au nom d'un korbanola. Est-ce que Aase de la Achara Frasha Mechapra, est-ce que l'offrande du korbanola expie aussi le péché d'une personne qui a transgressé un commandement positif, même si cette transgression a eu lieu après que l'animal a été désigné comme korbanola, ou l'omechapra, ou bien est-ce que l'offrande du korbanola n'expie pas les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné? L'agma précise, mi amrinan, est-ce que nous disons mide dehave achatat, que le pardon obtenu par l'offrande du korbanola ressemble à celui obtenu par l'offrande du korban chatat? Nous dirons donc ma chatat de kodem afrasha'in, de la même manière que pour l'offrande du korban chatat. En ce qui concerne les péchés qui ont été commis avant que l'animal ait été désigné, oui, c'est-à-dire l'offrande du korban chatat n'obtient le pardon que pour un péché qui a été commis avant que l'animal a été désigné, Dela Harafra Shalo. Mais le péché commis après que l'animal a été désigné, non, l'offrande du Korban Khatat n'obtiendra pas le pardon pour celui-ci. Af Hachanami, ici aussi, dans le cas du Korbanola, de Kodem Afrashahin, en ce qui concerne les péchés commis avant que l'animal a été désigné, oui, l'offrande du Korban Ola les expira, Leachar Afrashalo, mais en ce qui concerne les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné, non, l'offrande du Korban Ola ne les expira pas. Odilma, ou bien nous pouvons dire, Lodamia al-Khatat, le pardon obtenu par l'offrande du Korban Ola ne ressemble pas à celui obtenu par l'offrande du Korban Khatat. Et cela parce que de Khatat, al-Kodhet, Bechet, Ba'e, Leituye, Khada Khatat, parce qu'en ce qui concerne le Korban Khatat, pour chaque péché, il faut offrir un Korban Khatat. Behacha, mais ici, en ce qui concerne le Korban Ola, Kivan de Ika Kama Ase Gabe, Mechapra, puisque s'il a transgressé plusieurs commandements positifs, l'offrande du Korban Ola les expira tous. En effet, puisque le Passouk dit concernant l'offrande du Korban Ola, Venir Tzalo, et l'offrande lui sera agréée. Nous apprenons de là donc qu'Akadosh Baruch Hu a accepté son cadeau, et si l'on peut dire, il se trouve en bon terme avec lui. Nous apprenons de là donc qu'il a expié tous les péchés qu'il a commis auparavant. Nous pourrons dire donc, Aase de la Achar Hafrasha Nami Michapra, que l'offrande du Korban Ola obtiendra le pardon même pour les commandements positifs qui ont été transgressés après que l'animal a été désigné. L'Agma répond, Tashma, bien écoute, une preuve d'une braïta qui interprète les psukim concernant l'offrande du Korban Ola dans Vaikra Aleph. Le pasuk dit, Vesamach, etc., venir tsa. Et il appuiera ses mains de toute sa force sur la tête de l'animal. Cette action devait se faire avant le sacrifice de l'animal. Et l'offrande lui sera agréée pour expier ses péchés. Alors, la question se pose, Vechis Micha Mechaperet, est-ce que c'est cette action de s'appuyer sur la tête de l'animal qui obtient le pardon sur les péchés, Vehalo en kapara el abedam? Pourtant, le pardon n'est obtenu que par l'aspersion du sang. Chez Nehemar, parce que le pasuk dit dans Vaikra Yudzaïn, ki hadam hu banefesh echaper, car c'est le sang qui expie les péchés de l'âme. Nous voyons donc clairement que c'est l'aspersion du sang qui expie les péchés et non pas le fait de s'appuyer sur la tête de l'animal. Et là, matalmud lamar vesamach venirza lechaper. Si c'est ainsi, que voulait dire le pasouk lorsqu'il dit « Et il s'appuiera sur la tête de l'animal et l'offrande lui sera agréée pour expier les péchés ?» Cela nous enseigne « Sheim asa'a lesmicha shiare mitzvah » que s'il a accordé à cette action de s'appuyer sur la tête de l'animal autant d'importance que l'on accorde au reste d'une mitzvah, autrement dit, s'il ne l'a pas faite, « Ma'alea la vakatuv keilu lo kiper » le pasouk considère comme s'il n'avait pas obtenu le pardon par l'offrande de ce sacrifice, Vekiper, cependant, il aura quand même obtenu le pardon. Alors la question se pose, que veut dire la Braïta lorsqu'elle dit que l'on considère qu'il n'a pas obtenu le pardon, mais il l'a quand même obtenu? Alors la Gemara propose, Maïlav, n'est-ce pas que c'est cela que la Braïta voulait dire, Vekiper a assez de Kodem Afrasha, que l'offrande de ce sacrifice a obtenu le pardon pour les commandements positifs qui ont été transgressés avant que l'animal a été désigné, Lokiper. Et lorsque la Braïta dit que l'offrande de ce sacrifice n'a pas obtenu le pardon, a assez d'esmicha, cela se rapporte au commandement positif de s'appuyer sur la tête de l'animal avant l'offrande du sacrifice, d'ahavaleh assez de l'acharafracha, parce que c'est un commandement positif qui a été transgressé après que l'animal a été désigné. Donc, il est vrai qu'il a obtenu le pardon sur les péchés qu'il a commis auparavant, mais maintenant justement, il a commis un péché pour lequel il n'a pas obtenu le pardon. Nous pouvons donc prouver de là que l'offrande du Korban Ola n'obtient pas le pardon pour les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné. Amar Rava, Rava dit, pour réfuter cette preuve, assez de smicha kamart, est-ce que tu parles du commandement positif de s'appuyer sur la tête de l'animal? Shaniatam, là-bas c'est différent de kol kama de lo shachit, tant qu'il n'a pas abattu l'animal, donc tant qu'il ne l'a pas sacrifié, be'amod usmor kae. Il a toujours ce commandement positif de s'appuyer sur la tête de l'animal. Et mat kahabease, quand se trouve-t-il qu'il a transgressé ce commandement positif? Le'achar shrita, c'est uniquement après l'abattage de l'animal. Le'achar shrita, lo kamivayalan. Nous nous étions jamais posé de questions concernant les commandements positifs qui ont été transgressés après l'abattage de l'animal et après le sacrifice. Il est évident donc que l'offrande d'un korban olah n'obtiendra pas le pardon pour les péchés qui ont été commis après que l'animal a été sacrifié. La seule question que nous nous sommes posée, c'est pour les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné, mais avant le sacrifice de l'animal.
Amarle, Rav Huna bar Yehuda le Rava. Rav Huna, le fils de Yehuda, a posé la question suivante à Rava. Qui te dit d'interpréter cette braïta de cette manière? Comme quoi l'offrande du korban olah n'a pas obtenu le pardon pour le fait de n'avoir pas accompli la smicha, qui est l'action de s'appuyer sur la bête de l'animal. Emma, on pourrait dire de la manière suivante, Kiper Gavra, l'offrande de ce korban olah a obtenu le pardon pour tous les péchés de cet homme, même pour le fait de n'avoir pas accompli la smicha, donc qu'il ne s'est pas appuyé sur l'animal avant le sacrifice.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Vav Amud Bet.
L'occupère, lorsque la Brata dit que nous considérons qu'il n'a pas obtenu le pardon, elle veut dire Kameshmaya par rapport au ciel. Autrement dit, même s'il est vrai que l'offrande de ce korban olah a expié tous ses péchés, même le fait de n'avoir pas accompli la smicha qui a été commis après que l'animal a été offert, il ne mérite donc aucun châtiment. Cependant, il n'en est pas moins que cette mitzvah n'a pas été accomplie. Par conséquent, si l'on peut dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas totalement satisfait de l'offrande de ce sacrifice. Milotnan n'a-t-il pas été enseigné dans une Mishnah dans Maseret Negaim Perek Yudalet Mishnayud concernant la cérémonie de la purification du lépreux? Parmi les sacrifices qu'il devait offrir, il devait offrir un mouton comme Korban Hasham, dont le sang était appliqué sur son pouce droit, sur son gros orteil droit et sur la partition moyenne de son oreille. Après cela, le Kohen prenait une partie du loug d'huile, c'est à peu près une quantité de 0,6 litres que le lépreux avait emmené et en versait dans sa main gauche. Puis il devait tremper à 7 reprises son index droit pour asperger de l'huile en direction du sanctuaire. Puis, toujours en trempant son doigt dans l'huile, il en appliquait là où il avait appliqué du sang du Korban Hasham, donc sur son pouce droit, son gros orteil droit et sur la partition moyenne de son oreille. Puis il devait verser le reste de l'huile qui restait dans sa main sur la tête du lépreux. Alors la Mishnah parle de cette dernière partie de la cérémonie. Alors la Mishnah ramène le pasouk dans Vaïka Yudalet qui dit Ve'anotar bashemen asher al kafa kohen, etc. Et le reste du sang qui se trouvait dans la main du Kohen, il le mettra sur la tête de ce lépreux qui se purifie. Il faut lire ici selon le Bar Ve'chiper alav ha-kohen ifne Hashem. Et le Kohen expira sur lui, donc expira les péchés du lépreux devant Hashem. Puisque la Torah parle d'expiation à propos de l'huile qui est versée sur la tête du lépreux, nous apprenons de là, Imnatan Kiper, si le Kohen a versé cette huile sur la tête du lépreux, il a expié ses péchés, autrement dit, le lépreux est purifié, il peut consommer les corbanotes, de Imlonatan, mais si le Kohen n'a pas appliqué l'huile sur la tête du lépreux, l'occupère, il n'a pas expié ses péchés, autrement dit, le lépreux n'est pas encore entièrement purifié, il ne pourra pas encore consommer les corbanotes. D'ivrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Shiare Mitzvahen, cette application d'huile sur la tête du lépreux est en fait un reste de mitzvah, comme nous le voyons clairement dans le passou qui dit Vanotar Bashemen et ce qui reste de l'huile. Par conséquent, Ben Nitan, Ben Shelonitan, soit si le Kohen a appliqué cette huile sur la tête du lépreux, soit s'il ne l'a pas appliquée, qui perd, il a expié les péchés du lépreux, autrement dit, il sera purifié, il pourra consommer les corbanotes. Umalin alav keilu lo kiper, cependant nous considérons qu'il n'a pas expié ses péchés. Alors la question se pose, mai keilu lo kiper, que veut dire Rabbi Yochanan ben Nouri lorsqu'il dit que nous considérons qu'il n'a pas expié les péchés? Nous noterons qu'il est impossible de dire ici que Rabbi Yochanan ben Nouri voulait dire qu'il a transgressé un commandement positif et il doit offrir un korban olah, parce que dans la braïta précédente, il s'agissait d'une offrande d'un korban olah qui venait pardonner les transgressions de commandements positifs. On peut dire donc que même s'il a obtenu le pardon pour les commandements positifs qu'il a transgressés auparavant, mais pour celui-ci, il n'a pas obtenu le pardon, finalement, il devra offrir un autre korban olah. Mais ici, puisqu'il ne s'agit pas d'une offrande d'un korban olah, le fait de dire qu'il a transgressé un commandement positif et il a donc l'obligation d'offrir un korban olah n'a rien à voir. Forcément, nous devons dire que lorsque Rabbi Yochanan ben Nouri dit que nous considérons qu'il n'a pas expié les péchés, il a voulu dire quelque chose en rapport avec le sacrifice en question ou cette offrande d'un louk d'huile. En l'agmara demande, il ema demi baele leatouye korban acharina. Si Rabbi Yochanan ben Nouri voulait dire qu'il doit offrir un autre sacrifice, sans cela, le lépreux n'est pas purifié, il ne peut pas encore consommer les sacrifices. Ha'amart, pourtant, tu as dit, c'est-à-dire Rabbi Yochanan a dit plus haut, ben nitan ben lo nitan, qui perd, soit s'il a appliqué cette huile, soit s'il ne l'a pas appliquée, il a expié les péchés du lépreux, autrement dit, il est purifié, il peut consommer les corbanotes. Et là, forcément, nous devons dire, qui perd gavra, les péchés de l'homme en question, c'est-à-dire du lépreux, sont entièrement expiés, il est donc purifié et il peut consommer les corbanotes. L'occuper, lorsqu'il dit qu'il n'a pas expié les péchés, Kameshmaya, c'est par rapport au ciel. C'est-à-dire, cette offrande n'est pas parfaite, parce que cette mitzvah d'appliquer l'huile sur la tête du lépreux n'a pas eu lieu. Et si l'on peut dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas entièrement satisfait avec ce sacrifice. Puisque c'est ainsi, Hachanami, ici aussi, nous pouvons interpréter la braïta concernant l'offrande du Korban Olah de la même manière, Kiper, etc. C'est-à-dire que les péchés de l'homme en question ont été expiés entièrement. Cependant, Akadosh Baruch Hu n'est pas entièrement satisfait avec ce sacrifice, puisque la smicha n'a pas eu lieu. En l'agmara réfute cette preuve, en disant, toujours pourrais-je te dire que lorsque la braïta concernant l'offrande du Korban Olah dit que nous considérons qu'il n'a pas expié les péchés, c'est-à-dire que l'offrande du Korban Olah n'a pas expié le péché de l'omission de la smicha. Et Hatam Nami, là-bas aussi, dans la Mishnah concernant la purification du lépreux, nous pourrons l'interpréter de la même manière. Nous dirons donc, s'il a omis l'application de l'huile sur la tête du lépreux, il est vrai qu'il est entièrement purifié, et en plus, qui perd Matan Beonot, il a expié les péchés du lépreux en appliquant l'huile sur les pouces et les orteils. Autrement dit, ses applications sont parfaites. L'eau qui perd Matnotarosh, mais il n'a pas obtenu le pardon en ce qui concerne les applications de l'huile sur la tête. Autrement dit, même s'il est vrai que le lépreux est purifié, s'il veut accomplir cette mitzvah d'appliquer l'huile sur la tête du lépreux, il devra amener encore une fois une quantité d'un louk d'huile pour en appliquer sur la tête du lépreux. Tandis que selon Rabbi Akiva, s'il veut accomplir cette mitzvah, il devra recommencer les applications d'huile à partir de l'application d'huile sur le pouce droit, l'orteil droit et la partition moyenne de l'oreille.
Nous sommes Maseret Zvachim de Vavamudbet à la 11e ligne du haut de la page. La Gemara a posé une question précédemment concernant le fait qu'une personne qui offre un korban olah obtient le pardon pour les commandements positifs qu'il a transgressés. Alors, puisque l'offrande d'un korban olah a le pouvoir d'expier plusieurs péchés qui ont été transgressés, la question se pose, est-ce que l'offrande du korban olah expiera les péchés qui ont été commis même après que l'animal a été désigné comme sacrifice, ou bien est-ce que cette offrande n'expie que les péchés qui ont été commis avant que l'animal n'ait été désigné comme sacrifice? En l'agmara dit, Tashma vient écoute une preuve d'une braïta concernant les sacrifices spéciaux qui sont offerts à l'occasion des fêtes. Rabbi Shimon Omer, Kivseh Atzeret Lama En Bain, pourquoi est-ce que sont offerts les moutons offerts à l'occasion de la fête de Shavuot? En l'agmara s'étonne, Kivseh Atzeret Shlamim Ninhu, les moutons offerts à l'occasion de la fête de Shavuot et qui accompagnent les pains spéciaux offerts aussi à cette occasion, sont en fait des korbanot shlamim. Il n'y a pas de question à se poser donc pourquoi ils sont offerts. Alors la Gemara corrige et dit, elle a plutôt, la question de Rabbi Shimon était la suivante, Seire Atzeret Lama Henbain, pourquoi est-ce que sont offerts les boucs à l'occasion de la fête de Shavuot? En effet, uniquement pour la fête de Shavuot, il y a deux boucs qui sont offerts en tant que korban khatat. Un qui accompagne les pains spéciaux offerts à l'occasion de Shavuot et qui est mentionné dans Parashat Emor, et le deuxième qui fait partie des Moussafim qui est mentionné dans Parashat Pinchas. Alors la question se pose, pourquoi sont offerts deux boucs à l'occasion de la fête de Shavuot? Rabbi Shimon répond, « Altumat mikdash vekodashav » L'offrande de ces boucs vient expier les péchés de l'impureté du sanctuaire et de ses sacrifices. C'est-à-dire, l'offrande de ces boucs vient expier les péchés de ceux qui ont pénétré dans le sanctuaire ou qui ont consommé des sacrifices alors qu'ils étaient impurs. Comme il est expliqué dans Maseret Shavuot, l'offrande de ces boucs, donc offerte à l'occasion des fêtes, expie les péchés de l'impureté lorsque ceux qui les a commis ne savaient ni au début qu'il a commis cette faute, ni à la fin qu'il a fauté. En cela répond uniquement pourquoi un korban khatat est offert à l'occasion des fêtes. Mais la question se pose, Nizrak damo shel rishon, si le sang du premier a été aspergé, donc pour expier ses péchés, sheni la makarev, pourquoi est-ce qu'on offre le second, puisque les péchés ont déjà été expiés? Rabbi Shimon répond, al tuma shi'ura ben zelaze, c'est pour expier les péchés qui ont été commis entre l'un et l'autre. Nous expliquerons. Et mort me'ata, nous pouvons dire à partir de là, Re'uyin hayu Yisrael akriv korbanotehem b'chol et b'chol sha. Les bnei Israël auraient mérité de devoir offrir des sacrifices à tout moment et à toute heure. Et là, Shechiseh HaKatuv, mais la Torah a voulu épargner leur argent, et c'est pour cela qu'elle n'a pas imposé des sacrifices à tout moment et à toute heure. Cependant, une fois dans l'année, la Torah nous montre qu'en fait, même après avoir offert des sacrifices pour expier les péchés, il y a lieu d'en offrir un autre immédiatement après pour les péchés qui ont été commis après l'offrande du premier sacrifice. Alors, la Gemara comprend que ces boucs sont désignés ensemble la veille de la fête comme korban khatat. Alors, la question se pose, Vehahacha, pourtant ici, Dehase de l'Achar Hafracha, il s'agit d'un commandement positif qui a été transgressé après que l'animal a été désigné comme sacrifice. En effet, lorsque le péché de l'impureté a été transgressé, il a été transgressé entre autres un commandement positif qui est prescrit dans Bamidbaré. Le pasouk dit « Vishalchumina machane » etc. et ils renverront du camp les impurs. En fait, comme le précise le Shita Mekoubetset, ici il s'agit d'une interdiction qui est sanctionnée par la peine du retranchement dans le monde futur. Cependant, les korbanot khatat offerts à l'occasion des fêtes par le public expient plusieurs péchés et non pas un seul. En ce point, ces sacrifices ressemblent au korbanola qui expie plusieurs péchés de commandements positifs qui ont été transgressés. Et c'est pour cela donc que la Gemara les compare. En tout cas, puisque comme nous l'avons expliqué, les deux sacrifices ont été désignés en même temps, lorsque Rabbi Shimon dit que le second sacrifice vient expier les péchés qui ont été commis après le premier, forcément, il a voulu dire que l'offrande du second sacrifice expie les péchés qui ont été commis après l'offrande du premier. Il est donc question de péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné, Vekamechapra, et quand même l'offrande de ce sacrifice expie ses péchés. Nous pouvons donc prouver de là que l'offrande d'un korban ola expiera même les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné comme sacrifice. La Gemara réfute cette preuve en disant « Ida frishinu bevatachat » Si les deux boucs ont été désignés comme sacrifices en même temps, la veille de la fête, Hachinami, effectivement, c'est vrai qu'il n'aurait pas fallu offrir deux sacrifices. Hachabema eskinan, mais ici, de quel cas il s'agit, d'Afrishinu Bezeachazé, que ces deux boucs ont été désignés séparément l'un après l'autre. Et ce que Rabbi Shimon voulait dire, c'est que l'offrande du second bouc expira les péchés qui ont été commis après que le premier bouc a été désigné comme sacrifice. En fait, l'offrande du second bouc n'expira que les péchés qui ont été commis avant que celui-ci a été désigné comme sacrifice. Il n'y a donc pas de preuve d'ici. Alors la Gemara demande, « Veleku velemaleh lekra dechiktiva bezeacharzektiva » Est-ce que nous pouvons nous lever et dire que lorsque le pasouk ordonne d'offrir deux boucs, nous parle uniquement d'un cas où les deux boucs auront été désignés séparément l'un après l'autre? Autrement dit, puisque cette obligation d'offrir deux boucs à l'occasion de la fête de Shavuot existe chaque année, il est difficile de concevoir que la Torah n'a ordonné cela uniquement dans le cas où ces deux boucs ont été désignés séparément, alors que ceci n'est précisé nulle part. L'Agma répond, Amar Papa, Korbanot Tzibur Ka'amart, est-ce que tu te poses une question sur les sacrifices publics? Sha'ani Korbanot Tzibur, les sacrifices publics sont différents d'Elev Beddin Kamatne Alehem, parce que le cœur du tribunal
pose une condition sur leur état de sacrifice. C'est-à-dire, même dans le cas où les deux boucs ont été désignés ensemble comme Korban Khatat, le tribunal a le pouvoir de poser une condition comme quoi la désignation du second bouc comme sacrifice ne prendrait effet qu'immédiatement avant qu'il soit sacrifié. Ainsi donc, l'offrande du second bouc expira les péchés qui ont été commis entre la désignation du premier sacrifice et l'offrande du second. Mais en fait, on ne pourra pas prouver de là que l'offrande d'un corbanola ou de n'importe quel autre sacrifice expie les péchés qui ont été commis après que l'animal a été désigné comme sacrifice.
Selon l'opinion de Rashi, nous sautons les trois lignes suivantes. Amar le Rav Yosef Beres de Rav Shmuel le Rav Papa. Rav Yosef, le fils de Rav Shmuel, a posé la question suivante à Rav Papa. Umit le Rabbi Shimon lev beddin matne alehem. Est-ce que Rabbi Shimon, qui est l'auteur de la Braïta que nous avons vue précédemment, est-il d'accord avec le principe selon lequel le tribunal a posé une condition dans la désignation du sacrifice? Veha Amar Rav Idi Baravin Amar Rav Amram Amar Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yohanan Timidim Shelo Hutzrechu Letzibur. Des animaux qui ont été désignés pour l'offrande du sacrifice journalier que le public n'a pas eu besoin, c'est-à-dire, comme il est expliqué longuement dans Maseret Shkalim, le public devait contribuer chaque année pour l'offrande des sacrifices. À partir de Rosh Chodesh Nissan, il fallait offrir les sacrifices avec l'argent qui a été apporté par les nouvelles contributions. D'autre part, il fallait qu'en permanence, il y ait 6 animaux qui puissent être offerts en tant que Korban Tamid. Finalement, la veille de Rosh Chodesh Nissan, il restait 4 animaux qui n'ont pas été utilisés. Ceux-ci ne pouvaient pas être offerts pour le sacrifice journalier parce qu'ils ont été achetés avec l'argent des contributions de l'année précédente.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.